France Inter.
Salut Frédéric, c'est Sabine. Je voulais donc te dire que dans 99% des cas, je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est toujours intéressant. Et ça, c'est très fort. Alors, je suis très déçue que tout s'arrête et je te fais un grand merci. À bientôt.
Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 12 ans. Comme tous les étés, nous t'écoutons sur la route des vacances. D'ailleurs, mon petit frère adore ton générique.
Oh, nice oui, nice oui.
On ne sait pas comment on va faire l'année prochaine sans toi. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Gros bisous à toi et à toute ton équipe.
Oui, salut Frédéric. Bon, écoute, c'est Guy. Ça fait 10 ans que je retape ma baraque. Depuis le début, j'écoute Blockbuster. Et là, franchement, le fait que tu nous quittes, c'est vraiment dur. Je sais pas comment je vais faire. Moi, ça me vidait la tête. Ça me prenait plein de trucs. Je suis passionné de BD. J'ai plein de pop culture en général. Là, il va falloir trouver une solution parce que je peux pas rester en demi-chantier comme ça pendant les années qui viennent. Donc, ou bien tu continues, ou bien tu suggères d'autres types de podcasts tout aussi hétéroclites et qui parlent autant à toutes les générations. Enfin, faut trouver une solution parce que là, sinon, je suis dans la merde. Bon, bon courage à toi. À plus.
C'est triste. Ils nous l'ont volé. Ils nous ont volé notre précieux. Ils nous ont volé Frédéric Sidrist.
To be or not to be, not to be.
Après 9 années à présenter cette émission, un bilan s'impose. Les hommes et les femmes, bah ça fonctionne pas pareil. Eh oui, c'est tout pour moi, retrouvez mon livre L'Homme Déconstruit dans toutes les bonnes librairies aux éditions Toutologue. Non, plus sérieusement, Lisiane qui travaille avec moi sur cette émission m'en parlait encore hier. À chaque fois qu'on a invité une femme experte d'un sujet qu'on voulait aborder, 9 fois sur 10, elle a tout d'abord douté de sa légitimité, proposé des alternatives qui sont souvent des hommes, et quand elle a fini enfin par accepter, la qualité de ses interventions interrogeait sur le pourquoi de son doute initial. Un homme par contre, on n'a même pas fini de donner le sujet de l'émission qu'il est déjà en studio d'enregistrement. Tu peux parler de physique quantique, bon j'avoue ça nous a réveillé rarement. Un homme qui a vu 3 épisodes de MacGyver, eh ben il se sent qualifié. Une femme chercheuse depuis 15 ans par contre sur le sujet, elle va d'abord nous proposer son mari qui a vu 3 saisons de MacGyver. Bref, la confiance des hommes en eux est fascinante. J'ai lu qu'une majorité d'hommes qui n'ont jamais passé de brevet de pilote se disaient capables de faire atterrir un avion. J'ai aussi lu un article parlant du procès Pellico et qui mettait en garde contre le féminisme punitif. Et là, je me suis dit, ces mecs-là, hein, tu peux les envoyer sans combinaison en orbite autour de Mars, ils reviennent en bonne santé tellement ils manquent pas d'air. Hein. En 9 ans, j'ai aussi pu me rendre compte qu'il y avait des sujets qui précèdent les années 90 qui ont été totalement préemptés par les hommes. Dès qu'on aborde des séries des années 80, il y a une baisse drastique du nombre d'intervenantes. Comme si dans ces années-là, il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de regarder la télé et s'octroyaient le droit d'en parler. Plus on avance dans les années, vers les années 2000 et tout ça, et plus on voit apparaître une génération d'intervenantes qui n'attend plus, qui demande la permission à personne pour parler de tout. Comme quoi, on peut s'en réjouir. C'est long, c'est lent, mais en 9 ans, eh bien les choses ont changé.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Ils nous ont tous saccagés. Sans exception. Ils ont saturé l'air de produits chimiques, de radiations et de poisons. Alors Dieu leur a envoyé un fléau rien que pour eux. Le fléau de l'infertilité. Bienvenue. Allez vous asseoir. Quand les taux de natalité ont chuté, ils ont aggravé les choses. Pilule contraceptive. Pilule du lendemain. Ils ont assassiné des bébés pour profiter de leurs orgies et de leurs sites de rencontres. Ces femmes étaient obscènes. Détraînées. Mais vous, vous n'êtes pas comme les autres. La fertilité est le don que Dieu vous a octroyé. Il vous a préservé pour que vous accomplissiez un devoir biblique, comme Bila a servi Rachel. Vous toutes, vous servirez les officiers de la foi, ainsi que leurs épouses infécondes. C'est vous qui porterez leurs enfants. Ah ! C'est une chose. chance formidable.
Il y a des séries réconfortantes comme Gilmore Girls et des séries éprouvantes comme La Servante écarlate portée par l'incroyable Elizabeth Moss. L'adaptation du roman dystopique de Margaret Atwood a pendant 6 saisons prolongé l'univers du roman initial. Un univers dans lequel un mouvement religieux a pris le contrôle de la Maison Blanche et où les femmes ont été déchues de leurs droits de citoyens et catégorisées selon leurs fonctions, épouses, tantes ou encore servantes. Un livre claque pour une série qui ne l'est pas moins et dont on va parler avec Hélène Breda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris Nord et vos recherches portent notamment sur les représentations des identités, des rôles sociaux de genre et des sexualités dans la fiction et les médias.
Tout à fait.
Avec nous également Salome Beaumarie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Numérama.
Tout à fait.
Et enfin, Mélanie Joseph Villain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature anglophone à l'université Bourgogne Europe. Vous étudiez notamment les littératures populaires, en particulier le roman policier et la science-fiction dans le contexte postcolonial.
C'est ça.
Chair.
Une chaise.
A table.
Une table.
A lamp.
Une lampe.
There's a window with white curtains.
Une fenêtre avec des rideaux blancs.
The glass is shatterproof, but
la vitre est en verre incassable, mais ce n'est pas pour m'empêcher de m'enfuir.
Handmaid wouldn't get far.
Une servante n'irait pas loin.
It's those other escapes.
Ils craignent ces autres évasions,
you can open in yourself,
celles que l'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant.
Or a twisted sheet and a chandelier.
Ou d'un drap entortillé et d'un lustre.
I try not to think about those escapes.
J'essaie de ne pas trop y penser. C'est plus difficile les jours de cérémonie, mais penser peut nuire à nos chances.
My name is Offred.
Mon nom est Defred.
I had another name, but it's forbidden now.
J'en avais un autre avant, mais il est devenu interdit.
So many things are forbidden now.
Tant de choses sont interdites maintenant.
Un extrait du premier épisode de la série La Servante écarlate, créée en 2017 par Bruce Miller avec Elizabeth Moss dans le rôle de June Osborne. Elle est doublée en français par Anne Dolan. Mélanie Joseph Villain, qui est Margaret Atwood, qui est à l'origine de ce roman?
Alors Margaret Atwood, c'est une romancière canadienne, romancière, poétesse. Elle a aussi écrit de nombreux essais où elle explique sa conception de la littérature, des liens entre politique et littérature. Et ce roman-là, en fait, il est à peu près au milieu de sa carrière, donc à un moment où elle était déjà reconnue, mais pas encore la grande vedette qu'elle est devenue depuis, en partie grâce à La Servante écarlate.
Et est-ce qu'elle avait des inspirations d'autres auteurs, d'autres styles, des genres de prédilection?
Oui, alors en fait, il faut savoir qu'elle avait commencé une thèse, et ça explique d'ailleurs où elle a situé le roman, puisqu'en fait, il se situe dans les endroits où elle a elle-même été étudiante. Et elle a été inspirée, elle a beaucoup étudié la littérature nord-américaine, en fait, dans son ensemble, donc canadienne. D'une part, elle a par exemple produit une anthologie de la littérature canadienne où son argument, qui est aujourd'hui un petit peu dépassé, mais qui à l'époque était intéressant, c'est de dire que l'identité littéraire canadienne, c'est la thématique de la survie. Donc ça, quand on a La Servante écarlate en tête, évidemment, c'est très intéressant. Et puis, elle a étudié aussi les grands auteurs états-uniens. Et donc, par exemple, il y a des influences qu'on sent dans La Servante écarlate aussi sur la littérature puritaine, sur Hawthorne, avec La Lettre écarlate. On voit bien comment le titre français fait écho, évidemment, à ce roman-là, qui était un roman sur le puritanisme au XVIIe siècle, aux États-Unis. Et puis, elle a été aussi influencée par la littérature, les dystopies. En fait, elle parle souvent d'Orwell, par exemple, et du fait qu'elle a été influencée par 1984, on y reviendra peut-être, mais voilà, ça fait partie des influences littéraires très variées qu'on peut citer, en tout cas, quand on regarde La Lettre écarlate.
Et ce qui est intéressant, c'est que elle officie dans le genre, parce que faire un roman de dystopie, c'est un roman de genre, et c'est un genre qui, justement, une littérature qui est souvent, je ne vais pas dire dépréciée, mais qui n'est pas aussi commentée que des romans plus traditionnels.
Oui, alors aujourd'hui c'est moins vrai, mais au moment où elle a écrit La Servante écarlate, ça restait encore, c'était encore considéré un peu comme de la sous-littérature, hein, ça date du milieu des années 80. Aujourd'hui, au contraire, on peut dire que c'est presque devenu un genre majoritaire. Hein. Il y a des critiques aujourd'hui qui disent que la dystopie, c'est le genre du 21e siècle. On le voit aussi bien en études filmiques. Oui, c'est très bizarre. on le voit aussi bien en études filmiques qu'en littérature. Mais au moment, il faut resituer, au milieu des années 80, ça restait encore quelque chose de relativement peu exploré, en tout cas par les auteurs, entre guillemets, sérieux.
Salambo et Hélène, comment avez-vous découvert La Servante écarlate, par le livre ou par la série ?
Alors moi, par la série, je l'ai découvert en 2017 à sa sortie. À l'époque, j'étais encore en école de journalisme et je me souviens que ça m'a vraiment beaucoup marquée. C'était vraiment un coup de poing à l'époque. Il y avait peu de séries féministes, aussi féministes en tout cas, à l'écran, qui le montraient frontalement. Il y avait beaucoup de gros plans sur la tête d'Elisabeth Moss. On y reviendra peut-être après.
À l'époque,
c'était quelque chose de très fort et qui nous permettait de la suivre directement. Après, c'est devenu un peu un gimmick qui est devenu un peu plus décrié, on va dire. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un coup de poing. Et en fait, ça m'a donné envie, du coup, de faire mon mémoire de fin d'études sur The Handmaid's Tale et de le comparer à Big Little Lies, qui est aussi une grande série féministe qui est sortie la même année. Voilà.
Hélène Breda ?
Et moi, je l'ai découverte par le livre. J'ai toujours été grosse lectrice, consommatrice du genre de l'imaginaire et notamment, je m'intéresse à la science-fiction féminine et féministe. Donc, je pense que le livre, j'en ai entendu parler sur Twitter, qui a aussi joué un grand rôle dans mon éveil et mon éducation au féminisme. Donc j'ai entendu parler du livre.
À une époque, Twitter était capable de ça.
Oui, a long time ago. Donc j'en ai entendu parler, ça m'a intéressé, il est dans ma pile à lire, et je pense que quand j'ai vu que la série était en préparation, qu'elle allait sortir, ça a mis un petit coup d'accélérateur sur mon envie de le lire, donc je l'ai lu, et puis l'année suivante, ou quelques mois après, la série est sortie.
Alors, Margaret Atwood a souvent dit qu'elle n'avait rien inventé lors de l'écriture de La Servante écarlate. Quelles ont été ses autres inspirations ? Parce qu'en fait, elle-même, elle ne s'engage pas du tout. Elle dit « Ah non, mais moi j'ai récupéré plein de choses issues de littératures diverses et variées et je l'ai mis dedans. » Donc c'était quoi ses inspirations ?
Alors, elle a écrit une partie du roman en étant à Berlin-Ouest, donc c'était à l'époque avant la chute du mur. Donc il y a quand même assez clairement dans le système totalitaire qu'on découvre progressivement dans le roman, il y a clairement des inspirations sur les différents systèmes mis en place dans le bloc de l'Est, donc ça semble relativement évident. Le puritanisme, hein, je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, mais la place de la religion et cette conception vraiment extrêmement sévère, extrêmement rigide de la Bible et de ce qu'on y trouve. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'elle met souvent en avant. Et puis, bah, y a 1984, c'est-à-dire des représentations littéraires de systèmes totalitaires et cette façon de voir le système à travers un individu. En fait, on avait déjà ça dans 1984. Hein, on perçoit principalement le système par les yeux de Winston. Et là, ce qu'on a dit sur la série des gros plans sur le visage, c'est un peu l'équivalent filmique de la technique narrative qu'on a dans le roman, où, à part l'appendice à la fin dont on parlera peut-être, tout est vu à la première personne, du point de vue de Fred, et si bien qu'on ne sait jamais vraiment à quel point c'est fiable, et on voit aussi l'effet du système sur l'individu.
Mmh. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'elle s'est toujours défendue d'être labellisée féministe. Elle a toujours dit non, moi je me définis pas comme ça.
Elle a mis du temps, oui, à se dire féministe. Elle, c'est une personnalité assez controversée, à vrai dire. Après le mouvement MeToo, par exemple, elle avait fait une tribune dans The Globe and Mail, à l'époque, qui s'intitulait « Am I a bad feminist ?» Donc, est-ce que je suis une mauvaise féministe ? Et où elle tirer un peu à balles réelles contre le mouvement MeToo en disant que fallait pas aller trop loin dans la délation, etc., que quand même il y avait des étoiles filantes qui tombaient du ciel parce que c'était des anges déchus, quoi. Bon, ça a été un peu controversé après parce que du coup elle a aussi eu des propos transphobes un peu à l'époque. Donc Margaret Atwood, c'est une personnalité un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est c'est un des piliers de la littérature féministe, et en même temps elle-même, en effet, a mis du temps à se décrire comme ça, et je crois qu'elle se définit même toujours pas tout à fait comme ça.
Non, après,
Hélène
on peut
Breda.
Dire... Oui, non, je pense que finalement, on n'a pas besoin qu'elle se définisse comme féministe pour que son œuvre soit féministe. Je fais aussi le parallèle avec Marion Zimmer Bradley, dont c'était un peu le cas aussi. Mais en tout cas, c'est une femme qui est née en 1939, donc qui écrit dans les années 80, donc après ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme dans les années 70. Donc si, je pense que pour elle, le référentiel féministe premier, c'est celui des années 70. Et c'est un roman qu'elle écrit pendant le backlash des années 80. Donc voilà, je pense que indépendamment de l'étiquette qu'elle veut s'accoler ou pas, son roman c'est indéniablement un produit de cette ère du temps et de cette période de l'histoire des mouvements féministes.
Et puis, si je puis me permettre, à chaque fois qu'on a parlé d'une série ou d'une œuvre, quelle qu'elle soit, avec des vertus féministes, toute personne qui est à l'origine de cette œuvre artistique a toujours dit « Je ne suis pas féministe ». Quel que soit à chaque fois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est le concept qui évolue le plus rapidement au sein de l'histoire, et qu'en fait, un féminisme en chasse une autre, et il y a quelque chose de l'ordre du « Bon, bah voilà, moi, je pratique un féminisme daté », mais j'ai encore jamais entendu dire quelqu'un dire « Ah, oh, bah moi, j'ai toujours été féministe depuis les années 70 jusqu'aux années 2000 ». Donc, vraisemblablement, une fois de plus, on en a un parfait exemple. On est ensemble pour parler progressisme et ouverture d'esprit. Non, en fait, c'est pas ça le sujet. Donc, on écoute Radiohead avec Burn the Witch.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Alors, que pensez-vous de votre nouvelle maison ?
Je prie Dieu pour qu'il me rende digne de mon nouveau commandant.
Vous saurez faire vos preuves, j'en suis certain.
Qu'est-ce que vous savez sur lui ?
Lawrence est un homme intéressant qui a contribué à la création de Gilead. C'est notre visionnaire, en quelque sorte.
Voilà.
Quoi d'autre ?
Nous avons toujours eu du mal à le cerner.
Je ne vois pas qui peut y arriver si vous avez échoué.
Lawrence est un survivant.
Nous le sommes tous, non ?
Mais lui, son rôle lui va à merveille. Il n'est pas sentimental, comme je le suis.
En ce qui me concerne, je n'ai jamais trouvé que vous l'étiez outre mesure, monsieur. Vous vous êtes montré clément. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est un miracle que je sois encore en vie.
Vous venez d'entendre un extrait du troisième épisode de la saison 3 de La Servante Écarlate avec Bradley Whitford, doublé par Nicolas Marié, dans le rôle du commandant Joseph Lawrence. J'aimerais vous poser la question à toutes les trois. En quoi Margaret Atwood a vu juste dans la conception de sa dystopie ?
Vous avez 4 heures.
Les gens ne voient pas la radio, mais il y a deux têtes qui sont tournées vers moi, c'est hyper flippant. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est une mise en fiction... donc extrapolée, même si elle se défend un peu du fait que ce soit une dystopie, parce que finalement tout a existé, mais c'est une mise en fiction de notions féministes et de problématiques féministes qui étaient déjà bien présentes et déjà bien prises en charge par les féminismes de la deuxième vague donc qu'elle avait vécue dans les années 70, puisqu'elle a écrit le bouquin dans les années 80, mais qui sont aussi encore malheureusement extrêmement d'actualité, réactualisées par l'ère Trump et plus généralement par la société dans laquelle nous on vit dans les années 2017, l'ère MeToo. Alors, c'est une série qui a été conçue et préparée avant le moment MeToo, puisque c'était à l'automne 2017. Donc la série est sortie avant et surtout a été préparée avant, mais en tout cas, tout ça était déjà en présence grâce à la quatrième vague du féminisme, les revendications en ligne, les dénonciations des violences sexistes et sexuelles, etc. Et donc, de la même manière que la série faisait bien écho à la situation des luttes pour les droits des femmes à l'époque où Atwood a écrit le roman, le roman faisait écho à ça, la série s'inscrit pleinement dans l'air du temps dans lequel elle a été conçue.
Salambo ?
Oui, c'est effectivement, elle est arrivée pile 3 mois après l'inauguration de Trump pour sa première présidence. Du coup, forcément, ça a créé quelque chose, une identification immédiate. En fait, Gilead a beaucoup été comparé à la présidence de Trump. Le personnage de Serena, par exemple, qui est une épouse, a été beaucoup comparé à Melania Trump. Il y avait des mèmes qui circulaient beaucoup à l'époque. Et sur Amazon, en 2017, La Servante Écarlate a été le livre le plus vendu de toute l'année parce que tout le monde est allé relire le livre, en plus de voir la série en parallèle. Et je pense que Margaret Atwood elle-même entretenait un peu quand même le flou, parce que même si effectivement elle disait que ça n'a jamais été une dystopie, etc., parce qu'elle s'était inspirée de choses qui avaient vraiment existé, elle disait partout à la presse que quand Trump a été élu, du coup ils avaient l'impression de faire un documentaire avec la série. Donc il y a quand même quelque chose où les frontières ont été assez vite brouillées quand même, et très vite l'équipe de la série a aussi plutôt pris la parole pour dire que effectivement ça avait de gros échos avec Trump. Et puis les militantes féministes aussi se sont réappropriées les costumes écarlates de la série et du roman dans la rue, dans les manifestations, etc. Ça a créé aussi des événements médiatiques et politiques assez importants. Il y a des phrases qui ont été reprises beaucoup de la série, qui étaient aussi dans le roman d'ailleurs, tout le monologue où elle dit qu'elle était endormie avant, que c'est ça qui s'est passé, que c'est pour ça qu'ils ont enlevé la Constitution, qu'ils ont renversé le Congrès et que bah, maintenant qu'elle est réveillée, elle se rend compte qu'en fait, ils auraient dû se réveiller avant. Tout ça a été beaucoup comparé en fait, à Trump. Voilà, il y a aussi la fameuse phrase, alors je vais peut-être très mal la prononcer, mais « Nolite te bastardes carborundorum », voilà, qui est la grande phrase de The Handmaid's Tale et qui est prononcée à plusieurs reprises dans le roman et dans la série, et qui est devenue aussi un symbole de ralliement féministe, quoi.
Et qui signifie ?
Qui signifie ne laisse pas, littéralement, ne laisse pas les bâtards te mettre plus bas que terre, mais en fait, qui a été repris pour dire ne laisse pas le patriarcat te mettre plus bas que terre. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète.
Et alors, évidemment, on parle d'une série qui a été diffusée principalement sur des plateformes, donc on n'est plus du tout dans l'époque des séries que l'on pouvait voir sur des chaînes généralistes. Donc, il y a peut-être des auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas de quoi parle la Servante Écarlate et quels sont les rôles de ces différentes femmes au sein de cette société. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents rôles alloués aux femmes dans la Servante Écarlate ? Mélanie Joseph Villain.
Alors, dans le roman, et c'est repris exactement dans la série, de façon générale, on comprend que la chute du régime démocratique, elle se fait en grande partie en enlevant aux femmes la possibilité d'avoir des rôles sociaux. Et donc, on leur réattribue des rôles qui sont en lien avec la sphère domestique. Donc, il va y avoir, en haut de l'échelle, en haut de la pyramide, il va y avoir les épouses. Donc là, c'est des femmes qui ont du prestige, qui sont mariées avec des hommes qui ont du pouvoir. Mais en réalité, elles n'ont du pouvoir que dans la sphère domestique. On va avoir les personnes qui sont à leur service, donc dans différentes sphères. Donc les servantes, comme leur nom ne l'indique pas, elles sont là pour faire des enfants, parce qu'on se situe, si les auditeurs ne le savent pas, dans un contexte où la fertilité a chuté de façon dramatique. Et donc c'est vraiment un enjeu, en fait, d'avoir des enfants, en fait, ça devient quelque chose de vraiment problématique. Et donc, les servantes, ce sont des femmes dont on sait qu'elles sont fertiles et qui vont donc être au service de familles, les commandants, leurs épouses, etc., de façon à leur permettre d'avoir des enfants.
Il faut préciser qu'évidemment, rien n'est fait avec leur consentement.
Hein. Bien sûr, oui, elles sont vraiment asservies. Hein, donc, c'est vraiment de la servitude au sens le plus fort du terme. Il y a aussi des femmes qui sont là pour préparer les servantes à leur rôle. Donc ça, ce sont les tantes, hein, aunts en anglais. Donc il y a une espèce de centre de formation, en fait, d'école pour servantes, où on leur apprend à être soumises et obéissantes. Et surtout, il ne faut pas qu'elles sachent lire, parce que ça pourrait leur donner du pouvoir. On a aussi les Martha, qui sont les domestiques, alors là, au sens le plus quotidien du terme. Elles sont là pour faire la cuisine, le ménage. Voilà, est-ce que j'ai oublié une catégorie ?
Il y a les épouses aussi, qui sont du coup les femmes des commandants, ouais, donc les commandants qui règnent sur Gilead, et qui donc sont... les commandants détiennent les servantes, c'est pour ça qu'elles s'appellent of Fred ou de Fred, c'est parce qu'en fait elles appartiennent à...
Du commandant Fred.
Exactement. Et c'est par ces commandants-là qu'elles sont violées tous les mois pendant la cérémonie, qui est le rituel qui leur permet peut-être de tomber enceinte tous les mois. Pardon, du coup, je t'ai coupé, mais...
Hélène Breda ?
Non, tu ne m'as pas du tout coupé. J'attendais que tu aies fini la parole, que tu aies fini de parler pour rebondir. Ce qu'il faut préciser, parce que je ne sais pas dans quelle mesure... Enfin, je ne sais pas si c'est très, très clair pour les auditeurs, mais c'est le fait que donc, ce nouveau régime théocratique autoritaire qui a pris le pouvoir après avoir renversé le gouvernement américain est entièrement fondé sur la Bible, prise dans son acception, dans son sens le plus littéral. Donc, par exemple, les servantes, ça vient de... Alors, me demandez pas quel épisode de la Bible, parce que je suis une mécréante, mais voilà, le fait que Rachel ne pouvait pas donner d'enfant, donc a demandé à sa servante Bila. Et donc, dans la Bible, c'est décrit comme... métaphoriquement, a priori, voilà, elle prend sa servante sur les genoux pour que son mari l'ensemence. Et donc, ils reproduisent textuellement, littéralement, des choses qui sont décrites dans la Bible au sens le plus
littéral.
Le plus littéral du terme, exactement.
Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui imagineraient que la série ou que le livre n'est que purement anticlérical, il faut préciser que dans la prise de pouvoir de ce mouvement religieux, tous les autres catholiques, etc., ont été pendus parce que considérés comme trop laxistes. C'est-à-dire que c'est une mouvance de la religion particulièrement radicale qui s'impose et qui se lance dans une sorte d'apostasie avec d'autres religions.
Oui, c'est pas du tout un livre anti-religieux, c'est pas les méchants religieux contre les gentils athées. C'est vraiment montrer le jusqu'au boutisme d'une... C'est une secte, hein, finalement, une secte chrétienne, alors que beaucoup de personnages principaux, y compris dans une certaine mesure l'héroïne qui s'appelle en vrai pas Offred mais June, croit en Dieu, et chrétienne, a fait baptiser sa fille avant le changement de régime, etc., et ne renonce pas à ça. En fait, elle ne laisse pas, à aucun moment, les personnages qui sont du bon côté de l'histoire ne laissent le religieux et la croyance aux méchants, entre guillemets. C'est beaucoup plus subtil que ça.
On est ensemble pour parler de June, l'héroïne de La Servante Écarlate, et héroïne, c'est aussi le titre de la chanson de Mickey.
J'ai mal aux jambes, mais je prie qu'il ne me lâche pas ici. J'suis peut-être un échec commercial, un prototype, mais j'suis mes cobayes. J'écrase ma tête contre la vitre, j'veux pas qu'on arrive trop vite.
Inter.
Vous ne méritez le pardon de personne. seule chose que vous méritez, c'est une vie faite de souffrance et de honte. Vous avez détruit ma vie, ma famille, mes amis. Vous avez détruit mon pays et mon enfant. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui soit moins digne de rédemption que vous. Vous vous êtes demandé pourquoi Dieu a voulu que vous soyez enceinte. Lorsqu'il tuera le bébé qui grandit dans votre ventre, vous enduriez ne serait-ce qu'une infime partie du supplice que vous nous avez infligé quand vous nous avez arraché nos enfants des bras. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris?
C'était un extrait de la saison 4, épisode 7 de la série La Servante Écarlate. Serena Joy Waterford est jouée par Yvonne Strahovski et doublée en français par Marie Diot. Alors, effectivement, là, on est en plein cœur de la série. C'est une série extrêmement dark, extrêmement dure. Quelles sont les différences entre la série et le livre ? Salambo ?
Alors, la saison 1 suit scrupuleusement le livre, à peu près, à quelques détails près, mais globalement, c'est quand même une adaptation assez fidèle, à mon humble avis, du roman. Après la saison 1, là, ils ont pris vraiment des libertés. Enfin, là, pour le coup, c'est écrit, tous les scénarios sont originaux, quoi. C'est pas du tout tiré des écrits de Margaret Atwood. Donc là, on commence à entrer dans des scénarios qui sont peut-être un peu plus éloignés de ce que Margaret Atwood avait écrit au départ, même si elle a continué à collaborer à la série. Et ça se ressent, je trouve, notamment dans la façon dont les viols et les violences faites aux femmes sont représentés dans la série. Dans la saison 1, par exemple, la cérémonie et les différents viols qui sont représentés à l'écran sont représentés de façon pas du tout érotique, de façon très mécanique, et on se concentre beaucoup sur la psychologie de June, ce qu'elle ressent, à quel point c'est dur pour elle et ses traumas à elle. À partir de la saison 2, je trouve qu'il y a un tournant et on bascule un peu plus dans des représentations pas nécessairement, enfin, trop violentes et pas nécessaires, à mon humble avis. Ce qui, du coup, dessert le propos féministe de la série, je trouve. Je sais que ça a été beaucoup débattu dans les milieux féministes. Voilà, il y a un peu deux camps pour savoir si cette violence est nécessaire ou pas. À mon humble avis, elle ne l'est pas forcément. Et je pense
Je précise en tant que spectateur que c'est une série où, là, je l'avoue, c'est rare, mais moi, je ne suis jamais arrivé au bout. C'est-à-dire qu'ils m'ont perdu. Au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai pas besoin de m'infliger ça.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à partir de la saison 2, toutes les femmes de la série, sans exception, souffrent de façon diverse et variée. Tandis que les hommes, bien sûr, eux, souffrent pas autant, ou en tout cas pas de la même façon. Et on tombe un peu dans des tropes, dans des schémas assez classiques qu'on peut voir dans des séries ou dans des romans, enfin voilà, dans la pop culture de façon générale. Par exemple, ce qu'on appelle le traumatic superpower awakening, qui est que un personnage féminin, généralement, a besoin d'un événement traumatique pour débloquer ses super pouvoirs. Bon, là, elle n'a pas de super pouvoir, June, mais en l'occurrence, le fait de vivre tout ça, c'est ça qui fait qu'elle a envie de se rebeller, et du coup, ça lui donne un peu des super pouvoirs pour se rebeller et mener un peu la rébellion au sein de Gilead. Du coup, je trouve que c'est un peu dommage, parce que, à mon humble avis, on tombe dans quelque chose de pas nécessaire, et qui contredit la première saison, qui était... pour moi, justement, vraiment un exemple féministe et qui, je pense, pourrait être étudié voilà, pour ce qu'elle représentait et pour la façon dont, justement, elle se concentrait sur la psychologie de June. Après, moi, je trouve qu'on laisse tomber la psychologie et on va juste sur de la violence gratuite, en fait.
Mélanie Joseph Villain.
Oui, et il y a une différence majeure aussi avec le roman, parce que le roman, c'est elle la narratrice. Et donc, le fait de pouvoir se raconter... Et parfois offrir plusieurs versions de la même scène, par exemple, réimaginer, revenir sur ce qu'elle a dit. Ça lui donne du pouvoir, en fait. Il y a une forme d'autorité, mais littéralement, enfin, elle est autrice de l'histoire qu'elle est en train de raconter. Et donc là, c'est quelque chose qui est évidemment difficile à transposer, en fait, dans la série, par définition, même si par des jeux de caméra, on est quand même beaucoup sur son visage. Donc on voit bien qu'on ressent ce qu'elle ressent, qu'on met l'accent sur ses sentiments. Mais tout le côté où elle jouait avec le langage, l'écriture est très travaillée, en fait, c'est faussement simple, en fait, dans La Servante écarlate. Donc, il y a beaucoup de comparaisons avec des objets du quotidien, elle se compare à une page blanche, elle se compare très souvent à un œuf, à quelque chose, voilà, qui est prêt à recevoir, mais en même temps qui recèle des possibilités. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la série, puisque la forme artistique n'est pas la même, donc par définition, on n'a pas les mêmes possibilités. Donc ça, je crois que c'est une vraie différence en termes de prise de contrôle, en fait, ou de prise de pouvoir. Enfin, voilà, c'est pas une super-héroïne dans le roman, mais elle a la capacité de raconter. Même si c'est quand même un tout petit peu remis en question, parce qu'il y a ce petit appendice à la fin, les notes historiques, où on a un écrivain, un historien homme, bien sûr, qui s'intéresse beaucoup aux figures masculines dans la vie de cette servante. En gros, il cherche vraiment à identifier, mais qui était donc le commandant, parce que c'est vraiment ça qui l'intéresse. Et c'est intéressant parce qu'il y a un jeu avec tout ce qu'on vient de lire, en fait. Ça remet en question certaines choses qu'on a lues. Ça nous fait comprendre que le régime est tombé. Donc ça, c'est la petite note d'espoir. Et ça correspond aussi à ce que dit Atwood sur la dystopie. En fait, dans un de ses essais, elle fabrique un terme qui est l'ustopie, qui est un mélange entre utopie et dystopie, parce qu'elle dit que dans toute dystopie, il y a une potentialité d'utopie et inversement. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est dit explicitement à un moment, le commandant dans le roman, il lui dit c'est le mieux, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que lui, de son point de vue, Gilead, c'est une utopie.
Oui.
C'est exactement le monde dans lequel il a envie de vivre. Il vit sa meilleure vie, vraiment. Alors que, évidemment, du point de vue de la plupart des personnages féminins, c'est une dystopie complètement. Et donc, les notes historiques, elles mettent ça aussi en question.
Hélène Berda ?
Oui, si j'ai le temps de rajouter quelques Allez-y. Éléments. Donc, du coup, sur l'apport de la série et notamment des saisons suivantes qui sont hors du cadre du roman, c'est qu'elles vont aussi apporter une expansion de l'univers, hein, en termes de world building, de construction de l'univers, au sens où, à partir des éléments qui sont présents dans le roman, que ce soit dans le récit de June, on ne sait pas qu'elle s'appelle June dans le roman, ou dans l'appendice, effectivement, qui se passe 200 ans après, et puis en même temps, on est obligé d'enrichir, de meubler tout ça, et donc ça va aussi faire changer c'est comme si on changeait la lorgnette ou le bout du microscope, on va passer de quelque chose qui était vraiment très centré sur un personnage dans un bout de ville dont on ne sait pas. On comprend plus ou moins que c'est Cambridge dans le Massachusetts, à côté de Boston. Et on va avoir d'autres points de vue et une expansion. Donc on en apprend plus sur le régime politique, on en apprend plus sur ce qui se passe au Canada en même temps, sur les mouvements de résistance, etc. Donc ça apporte un étoffement narratif considérable qui est intéressant de ce point de vue-là.
Mais justement, en fait, moi, c'est précisément là où ça m'a perdu, parce que j'ai commencé à être intéressé par la grande tapisserie et ce côté aller-retour. C'est comme dans les films d'horreur, quand vous savez, au début, on est avec les victimes, et quand tout d'un coup, le groupe, il y en a un qui dit bah, moi, je vais retourner dans la maison tout seul, et bah, alors qu'on était au début, oh non! Et on le voit repartir et qu'il lui arrive quelque chose, on se dit bah oui, évidemment. Et bah, en fait, il s'est passé la même chose dans la série, c'est-à-dire que moi, je voulais qu'il soit au Canada et qu'on montre comment on faisait tomber Gilead de l'extérieur, pas retourner dans Gilead, j'avais compris ce qui s'y passait.
On finit par. Au bout d'un moment, ça devient ça. Mais effectivement, pas d'un coup. Et puis, il y a aussi, pour les besoins narratifs, on ne peut pas faire tout de suite partir au Fred. Enfin, c'est un peu comme l'île de Lost, où une fois que Jack est parti, il se rend compte qu'en fait, il a besoin d'y retourner, parce que pour les besoins de l'histoire, on a... Mais à un moment, les dernières saisons sont quand même, du point de vue de la résistance, qui est plutôt centrée sur le Canada, l'Alaska, et le No Man's Land un peu au milieu.
Avant la quatrième partie de notre émission consacrée à la Servante écarlate, on écoute Billie Eilish avec Wildflower.
Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her
was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was best.
So far, so good. Blockbuster sur France Inter.
So, why was I being so...
Alors, pourquoi j'étais si pessimiste? Le système en place lors de la fondation des États-Unis n'était pas une démocratie. C'était une théocratie puritaine du XVIIe siècle. Et sachant ça, et en réalisant que les systèmes ne disparaissent jamais complètement, on les recouvre, on construit par-dessus. Mais ils ne disparaissent jamais du temps ou de l'esprit des gens. Donc ça, c'est une raison. Et l'autre, c'est qu'à travers le monde entier et dans l'histoire, ce genre de totalitarisme ont existé. Donc ma question était, si on devait en avoir un aux États-Unis d'Amérique, quelle forme il prendrait? Il y aurait beaucoup de dieux dedans, il y aurait aussi beaucoup de drapeaux américains, et il y aurait beaucoup de « retournons au bon vieux temps ». Mais c'était quand ce bon vieux temps? Et que se passait-il à cette époque exactement?
Vous venez d'entendre Margaret Atwood sur la chaîne américaine CNN au micro de Christiane Amanpour en décembre 2021. Et pour paraphraser, voilà, en fait, elle pose la question de « c'était mieux avant, mais en fait, pour qui c'était mieux ?» C'est ça, en fait, dont parle la servante écarlate.
Oui, oui, c'était mieux avant pour qui ? Et c'est, enfin, c'est impossible de ne pas faire le parallèle avec Make America Great Again. Et donc, il dit que c'était mieux avant pour les hommes et pour les blancs, parce qu'on n'a pas parlé d'intersectionnalité, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Et pour le coup, la série, on l'analyse sous l'angle du genre et des violences de genre envers les femmes. Mais en réalité, ce qui est décrit, c'est aussi beaucoup des choses qui ont été pratiquées envers des minorités ethno-raciales, et notamment les noirs.
J'ai eu beaucoup d'autrices noires qui ont dit, en fait, La Servante Écarlate, c'est juste placer des femmes blanches dans la situation des femmes noires.
Mais exactement, c'est un reproche qui a été fait de manière hyper légitime, en fait. On a parlé de certaines sources d'inspiration tout à l'heure, mais il y a aussi le fait des maîtresses blanches les plantations, merci, qui envoyaient leurs maris avoir des rapports sexuels. Pardon, c'était pas violer hein, leurs esclaves noirs, et parce que les enfants, les bébés allaient leur appartenir, etc. Donc voilà, il y a vraiment aussi, faut aussi vraiment penser le récit en termes de genre, mais de race et de classe, parce que ça apporte une vraie complexité. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est un point aveugle de l'histoire dans le roman et dans la série, qui est une critique extrêmement fondée à lui faire.
Et j'aimerais qu'on parle aussi d'Elizabeth Moss, qui a porté cette série durant 6 saisons, qui sortait auréolée du succès de Mad Men, et qui, que j'ai vu ensuite jouer dans énormément de films dans lesquels, à chaque rôle, elle poussait encore un peu plus loin le curseur des violences faites aux femmes. Et tant et si bien qu'en tant que spectateur, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème chez Elizabeth Moss, parce qu'elle joue dans Invisible Man, où elle joue une femme violentée par un mari toxique qui a un costume invisible. Dans un film de Jordan Peele aussi, pareil, elle subit encore des violences. Y a quelque chose d'inquiétant chez Elizabeth Moss Salambo?
Bah, un peu. Effectivement, elle a porté Zayn Metzel, elle était aussi productrice de la série, donc vraiment, elle a, au-delà d'être l'actrice principale, elle l'a vraiment porté, y compris scénario, elle a aussi réalisé quelques épisodes de la série, donc vraiment elle se l'est un peu appropriée. En fait, Elizabeth Moss, c'est un peu pareil, une figure un peu particulière, parce qu'elle a notamment fait partie de la Scientologie, qui est une secte dont fait aussi partie Tom Cruise, qui est franchement pas reconnu pour son progressisme, on va dire, mais comme toutes les sectes.
Il y a très peu de sectes woke.
Voilà.
Ça marche pas super bien.
Effectivement, ça se contredit un peu avec, pour le coup, le propos de The Handmaid's Tale. En tout cas, dans sa vie personnelle, effectivement, elle a des engagements qui peuvent faire un peu douter aussi des raisons pour lesquelles elle fait The Handmaid's Tale, exactement. Pour la question de la violence, effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, il ne faut pas pousser le curseur trop loin non plus, au risque de contredire ce qu'on voulait dire d'un point de vue féministe, et de juste proposer de la violence gratuite qui juste ajoute du trauma au trauma sans questionner. En fait, c'est pas un problème de représenter la violence, c'est pas un problème de représenter des violences sexistes et sexuelles. Ce qui est important, c'est de bien le représenter, et que on s'attarde vraiment aussi sur les conséquences, sur les victimes, sur les traumas, etc. Ce que ne fait pas vraiment The Handmaid's Tale, et ce que ne font pas vraiment les films dans lesquels joue Elizabeth Moss, à vrai dire.
Donc, pour résumer, il vaut mieux lire le livre de Margaret Atwood que de regarder la série.
Alors, la saison 1, je pense que ça vaut quand même le coup de faire... si on a aimé le livre, doit être regarder la saison 1. Ouais.
Oui, je suis d'accord. Je pense aussi que la saison 1 apporte quand même des choses par rapport au livre. Il y a aussi quand même une voix off par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que normalement, c'est June qui raconte l'histoire. Il y a quand même cette voix off qui est assez importante. Et je pense qu'en termes de réalisation, elle a aussi apporté des choses... importante à l'univers des séries. Il y a beaucoup de séries qui se sont inspirées après de The Handmaid's Tale. Mais c'est vrai que les saisons suivantes sont moins bonnes.
Très bien, très bien. Merci beaucoup Hélène Breda, merci Salambo Marie, merci Mélanie Joseph-Villain. Donc, saison 1, et livre de Margaret Atwood. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin et elle a été préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadein Guest. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Benjamin Wagon et au mixage Rémi Sistiaga. Comme toujours pour les messages, vous avez le répondeur 01 56 40 30 20. Et si vous voulez parler avec moi, pour les sujets, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mais si jamais vous voulez parler avec moi, c'est Instagram, @FrédéricSigrist. Et demain, un changement d'ambiance, hein, on va parler de force rouge, de force bleue, force jaune, force verte, force noire. Pour exactement les Bioman et autres Sentai.
Il faut faire comme si de rien n'était. Parce que je compte survivre. Pour elle. Elle s'appelle Anna. Mon mari s'appelait Luc. Je m'appelle June.